Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Non, il est midi. Non, vous avez raison, Karima, il est midi.
Il est midi.
Oh, j'ai dit 13h. Il est forcément 13h quelque part.
Oui, absolument. C'est une anticipation vers la fin.
Non, j'anticipais. Vous voyez comment je suis. Hein. Je gratte des
On
heures.
On gratte des heures. Bah oui, parce que c'est long maintenant. Hein. C'est long.
Bah, vous savez, c'est les derniers mètres qui sont
c'est
les plus longs.
Exactement. Et c'est là
dans
où
le marathon.
Et c'est là où on teste notre endurance, et on teste notre patience, et on teste notre persévérance.
J'ai entendu la voix de Karima Shadibaou, qui est une des grandes signatures du Ramadan. Karima, vous êtes coach familial, parental, vous êtes formatrice également au sein de l'Institut européen d'études et de recherche sur les thérapies holistiques.
Oui, absolument.
On va faire les bilans, c'est le moment des bilans.
C'est le moment des bilans, oui.
Ça commence,
et puis on est en fait entre deux énergies, entre le bilan, la fin, voilà, et de faire une récolte en fait de tout ce qu'on a semé, de tout ce qu'on a planté, et aussi avec donc une joie de vouloir célébrer la fin de ce qui va arriver maintenant, une récompense, une célébration, et puis aussi une tristesse quand même. Parce que le mois est terminé et que c'est une séparation d'avec ce mois. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Philippe?
J'entends plein de gens qui sont tristes, disent qu'ils sont tristes, mais qui sont quand même très contents que ça s'arrête.
Oui, mais ouais, c'est l'ambivalence des deux. On est triste parce qu'il y a une séparation d'un mois béni, d'un mois dans lequel on s'est dépassé, dans lequel on s'est surpassé, on a fait œuvre bonne, on a fait de belles choses, on a laissé exprimer en nous le bel agir, on a fait plein de choses. Et donc, de se dire, est-ce que ça va continuer ou pas? Donc, il y a une petite question qui est insidieuse, un petit peu comme ça, qui vient peut-être déclencher un peu de tristesse. Et donc, cette séparation, ce qu'on appelle, nous, en psychologie, la petite mort. Là, c'est une des séparations, c'est des petites morts. Donc, du coup, il y a un deuil à faire de se séparer de ce mois pour préparer la suite et préparer aussi le suivant. Donc, il y a la joie aussi de célébrer ce qu'on a planté, ce qu'on a et ce qu'on va récolter ce jour, dans ce beau jour-là de fête et de célébration.
Voilà. En tout cas, c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Hein.
Non, c'est pas. Ben justement, il faut pas être dans une anticipation et dans une projection.
Parce que on dit toujours qu'il faut vivre l'instant présent.
Absolument. Voilà.
Mais c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Non, et il faut pouvoir profiter de vivre jusqu'au bout les choses.
Absolument. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les derniers mètres en fait qui sont le plus important et les plus difficiles, parce que ces derniers mètres-là, il va falloir aussi tenir et ne pas faire n'importe quoi ou faire venir, vous savez, comme le dernier moment, venir gâcher. Voilà, je vais utiliser ce mot-là. Venir gâcher par ces petits instants-là, parce que c'est ce qu'il va faire. Enfin, moi, je les appelle comme ça. C'est comme un couronnement, en fait. Quelque chose qui vient célébrer et couronner tout ce mois et toutes ces belles choses, tout ce bel agir qui s'est exprimé en nous. Et autour de nous.
Voilà, Azaïs Kalsi nous a rejoint. Bonjour Azaïs.
Bonjour Philippe.
Voilà, Azaïs, ça va?
Bonjour Karima, tu vas bien?
Oui.
De l'IRTH, Institut Européen d'Études et de Recherche en Thérapie Holistique. Mais en fait, finalement, le Ramadan, c'est bien parce que c'est pas un mois comme les autres. Parce que si c'était toute l'année le Ramadan, il n'aurait pas cette saveur particulière.
Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que je parle de cette séparation, de cette petite mort. Parce qu'on se sépare d'un mois qui est unique, d'un mois béni, d'un mois où il y a une énergie particulière, d'un mois dans lequel on a fait plusieurs émissions là-dessus, dans lequel être inspiré par de belles intentions, de beaux objectifs, et qu'on arrive là maintenant à la fin, ça y est, c'est terminé, donc le Ramadan, ce sera l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'on est dans l'adoration du mois uniquement, ou est-ce qu'on est plutôt prendre ce mois comme étant un tremplin spirituel dans lequel, en fait, on va pouvoir amorcer les changements, on l'a dit plusieurs fois, mais aussi dans lequel on va pouvoir, je parlais de récolte, dans lequel on va pouvoir, en fait, donner une pérennité à tout ce qu'on a fait. Pour pouvoir les autres mois aussi vivre cette spiritualité. Elle sera différente parce que l'énergie n'est pas la même, mais de dire, voilà, j'ai amorcé le changement maintenant. Comment je peux continuer ce que j'ai amorcé pour pouvoir être vraiment dans cette évolution spirituelle, évolution personnelle et évolution aussi au niveau comportemental.
Le Ramadan chamboule la vie de tout le monde. Hein. Pendant un mois, les habitudes sont mises de côté pour en prendre de nouvelles qui sont vraiment les habitudes du mois de Ramadan. Et souvent, les gens qui sont mieux, qui sont meilleurs pendant le mois du Ramadan se demandent comment faire pour que ces habitudes qui sont prises pendant le mois du Ramadan soient durables et profondes.
N'est-ce pas, docteur Kalsi?
Moi, je voudrais faire un petit clin d'œil aux personnes que j'ai rencontrées juste avant de venir ici. Dimitri Hambourget, l'association AXA, c'est ça ?
Oui, le AXA. Centre social.
D'Aulnay-sous-Bois, oui. Petite Messe, Flore, Coffee, et puis bon, plein d'autres. Plein de femmes exceptionnelles qui ont participé aujourd'hui à cet atelier dont on a parlé justement, dont le sujet était que préparer l'après. Et elles ont donné et dit beaucoup de choses et de belles choses. Et dont une des choses, je ne sais pas si tu as commencé à le dire, c'est commencer à célébrer dès maintenant en fait cette fin, dès aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, parce qu'en fait on a deux moments en fait quand on commence un projet. Le début et puis la fin. Le début parce que on est très motivé, on a plein de joie, on commence, etc. On investit, on met toute son énergie. Et puis à la fin parce que c'est le moment où il y a l'implémentation, c'est la mise en production de tout ce qu'on a mis en place pour que justement ça puisse être dans les habitudes dont tu viens de parler, Philippe. Et donc la célébration commence et elle commence sur plusieurs points. C'est déjà de commencer à faire un petit bilan, mais un petit bilan avec beaucoup de joie, avec être gentil avec soi-même parce que certaines étaient déjà dans la culpabilité, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Non, vous avez toutes bien fait et on a tous bien fait parce que Dieu, il est l'amour rayonnant et sa générosité est infinie et il ne peut pas en fait considérer l'œuvre de son serviteur comme quelque chose de petit puisque pour lui, ce qui est petit est infiniment grand à ses yeux. Donc ce qu'on a fait est exceptionnel parce qu'on a quand même résisté comme 29 jours. Là, on est au 20e. Je sais pas si c'est demain l'Aïd ou le samedi, mais en tout cas,
on espère demain.
Voilà. Mais en tout cas, on a fait déjà quand même.
Ah bah non, moi j'espère qu'il y aura 30 jours.
Oui, je l'ai entendu hier, il disait non, c'est samedi.
Mais non, moi c'est, tous les ans, ils me font rire et ils disent ouais, mais le calcul, tout ça. S'il y a une nuit du doute, il faut qu'elle serve à quelque chose.
C'est vrai, mais c'est aujourd'hui.
S'il y a une nuit du doute, c'est qu'on doute jusqu'au bout qu'il y ait 29 ou 30 jours.
Mais le doute, vous savez, Philippe, il contribue en fait à l'excitation et au fait de se dire c'est demain, c'est pas demain, c'est je célèbre pas. Et ça fait partie en fait. Mais je trouve ça, c'est d'une pédagogie, la pédagogie divine est d'une.
Le doute était très pédagogique.
Ah, mais ouais, c'est juste magnifique, quoi. Ouais. Magnifique.
Et donc, parmi les choses, donc en fait, on prépare déjà en fait la mise en production, ces habitudes justement qu'on avait mises de côté et que maintenant, en fait, elles vont reprendre leurs droits, mais peut-être aussi elles vont reprendre leurs droits avec autre chose qu'on a accumulés, qui vont peut-être être transformés autrement, ces habitudes qu'on avait au départ. Et pour qu'elles puissent se mettre en place dans de bonnes conditions, la célébration, comme tu disais tout à l'heure, eh ben en fait, elle est importante aujourd'hui. Elle est importante parce que c'est ce qui va nous permettre de mettre en production les choses de façon très, de façon bienveillante, gentille envers soi-même.
Et quand on regarde et quand on parle en fait de la célébration et quand on voit la symbolique en fait de la célébration, c'est un rituel en fait, c'est un rituel de passage pour dire voilà, j'ai accompli ceci, cela, je peux maintenant, j'amorce une nouvelle phase. J'amorce quelque chose de nouveau, il y a du changement qui a émergé, il y a quelque chose de beau qui est là et qui prend forme. Et donc, je vais célébrer, je vais marquer ça par une fête, par la joie, parce que la joie, elle est là pourquoi ? La célébration, c'est quoi ? C'est une émotion qui s'exprime, c'est l'émotion de la joie, on l'a dit, mais c'est parce que je veux la partager. C'est l'idée de partager et de la maintenir aussi, pour pouvoir rester dans ce niveau comment je vais dire ça ? Niveau de j'ai amorcé ce changement, j'ai fait un effort sur moi.
C'est un niveau de conscience élevé.
Et un niveau de conscience, exactement. Pour rester dans cette expansion de conscience et dans cette ouverture de conscience, de dire, voilà, maintenant je marque par la célébration tout ce passage. Bien sûr qu'on n'a pas réalisé tout ce qu'on aurait voulu réaliser, ça c'est clair. Mais on ne va pas mettre le focus là-dessus.
Il y a peut-être des gens qui sont à 100% de leurs objectifs.
Ouais, hein. C'est possible, c'est ça, oui. Mais oui. Oui, ouais,
comme moi, par exemple. Des tomates cette année, les endives, le pastèque. En fait,
je vais être authentique. Je suis pas à 100% de mes objectifs.
Moi, je vais être authentique. Dites-moi.
Ah là là, moi, je suis une perfectionniste. C'est terrible.
En 98.
Tu peux faire quelque chose pour moi, docteur.
Non, mais si vous êtes à 98%, soyez bonne avec vous-même.
Non, je suis pas. Bienveillance, bien sûr, bienveillance en disant voilà, tu as fait du mieux que tu pouvais et de la meilleure des manières et tu as pris ce qui était disponible à ce moment-là. Voilà comment je me parle. Maintenant, c'est sûr que j'aurais voulu. Alors moi, je ne vais pas me contenter du 100%. Moi, c'est du 115, 120% que je veux. Oui, je sais.
Philippe, t'as vu là.
Non, alors 115%. Je sais pas. Non, moi, je pense que quand moyenne. On est à 80% déjà.
Oui, c'est déjà pas mal.
Alors, c'est
oui.
bien. Voilà.
Non, il y a un truc et je vais partager là. Je vais être un peu authentique.
Ah, parce
que. Il y a quelque chose. Je le suis toujours.
Ouais, allez-y.
Oui, c'est juste. Il y a quelque chose de nouveau dans ce mois que j'ai vécu personnellement. Des choses, en fait, pour aller encore plus profondément au niveau, dans mon intériorité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, un lien particulier avec le Coran. Alors que j'ai toujours, j'entends toujours parler, quand j'écoute des interventions sur la saveur, sur le goût, les délices de la foi, les délices de la parole de Dieu, quand il te parle. Et là, il y a quelque chose d'assez particulier. J'ai pas encore les mots exacts pour vraiment, il y a une espèce de subtilité, quelque chose de savoureux en même temps. Tu vois, qui est un peu le goût de la cannelle et le goût de...
Mmh. On parle de saveur, ouais.
Tu vois, c'est une des choses que j'ai proposé aujourd'hui, justement à ces femmes, c'est de préparer un super repas ce soir. Mmh. Elles ont préparé le repas tous les jours. Bon, pour certaines, elles ont fait beaucoup de choses, de belles choses. Mais ce soir, c'est particulier. Mmh. Il faut que peut-être ce soit plus coloré, ce soit en fait l'expression d'une joie en fait manifeste, audible, tangible, qu'on voit, qu'on fasse peut-être avec plus d'amour encore davantage. Et que les gens qui vont se réunir ce soir, si c'est demain la fête, qu'ils sentent que demain, que là on a mangé un repas avec une énergie différente, une énergie de fête. Et décorer la maison. Je leur ai dit, moi, je vais décorer tout à l'heure la maison avec les filles. On va mettre des guirlandes, on va mettre des choses, parce que c'est fou, il faut la décorer la maison.
Oui.
Acheter des cadeaux. Et commencer la fête dès maintenant. Et puis, en même temps, peut-être que vous en parlerez ce soir, je ne sais pas si vous faites une émission encore ce soir, Philippe, mais continuer la prière jusqu'à la dernière seconde. Invoquer Dieu jusqu'à ce que l'imam Abdali fasse l'Azan. Et parce que le ramadan, c'est jusqu'à l'Azan. Donc on ne dit pas, c'est fini, c'est le dernier jour. C'est jusqu'à l'Azan. Et là, ça sera terminé. Donc on apprécie ce dernier jour avec.
Après, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui se laissent couler jusqu'à la dernière ligne droite parce qu'ils sont trop fatigués.
Oui,
et puis il y a ceux qui accélèrent jusqu'à la dernière ligne droite. Après, il y a les deux attitudes.
Ça,
mais tu
vrai.
Sais.
Regarde, on a Tariq là qui est en train d'accélérer. Bon, tout à l'heure, il était en super forme, je ne voudrais pas dire. Mais là, il est au bout de sa vie.
Non, je me laisse couler, moi.
Mais justement, mais en se laissant couler, c'est pendant ces moments-là où l'invocation, elle est belle.
Eh ben, je vais tenter de faire des efforts. Voilà. Non, mais j'ai une petite séance de cardio après, juste là, à 13h. Donc normalement, ça devrait aller. Hein.
C'est bien.
Je vais courir.
Ah oui, c'est ça. Donc il y a du sport.
Ouais, il y a du sport, en plus.
Y a du
moi,
moment.
J'ai atteint mes objectifs, moi, pendant le ramadan.
Super.
Sportif.
Sportif. J'ai fait du sport et je suis très fier de moi. J'ai fait du sport à haute intensité pendant tout le ramadan.
Ouais, ce qui prouve que c'est possible.
C'est possible.
Bravo. Voilà, on le voit, nous, il est devant nous, donc il est en forme.
Franchement, ça marche avec Farid, que j'embrasse très fort.
Qui sera là dans pas très longtemps d'ailleurs.
En plus, voilà.
Qui sera d'ici 45 minutes, Farid, c'est le
magnifique.
Coach de Tariq. Voilà.
Ouais, très bon.
On va l'exporter, on va le vendre, Farid.
Non,
mais bon, voilà, ce qui prouve que on peut se dépasser, en tout cas physiquement, pendant le mois du ramadan. Alors que beaucoup ont du mal, hein, justement, à se bouger et à faire une activité physique.
C'est toujours le premier pas le plus difficile. Parce que si on reste figé sur nos croyances, que je n'y arriverai pas, que ce n'est pas possible, attends, comment ça, tu ne manges pas, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de truc, tu n'as pas d'énergie, comment tu veux réussir? Non, mais on peut tout. Bien sûr que c'est possible. Il suffit d'y croire.
Oui,
et d'avoir un coach aussi qui va pousser un peu.
Oui, mais alors c'est fondamental. C'est
oui.
que je sais pas, c'est beaucoup plus facile s'il y a un coach, on va dire, en tout cas.
C'est sûr.
Fait, le coach, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a dit au tout début, je m'en rappelle, la première émission, c'est la belle compagnie.
Oui.
C'est aller à la recherche, justement, de cette belle compagnie et être très attentif, justement, aux personnes qu'on va rencontrer pendant ce mois. Et on les a rencontrés, on s'attache à eux, on se colle à eux, pour que, justement, ce mois se passe dans les meilleures conditions, serein, zen, etc., spirituel, etc. Donc la belle compagnie, la bonne compagnie. Après maintenant, on va se poser la question, doit-on continuer avec cette belle compagnie ou alors la laisser, dire bon c'est bon, je me suis délecté avec toi et puis c'est fini. Non, on continue.
Non, on continue et puis on laisse émerger le cadeau en fait de cette belle compagnie. Parce qu'il y a quelque chose.
Je croyais qu'il fallait se séparer, c'est comme les copains de vacances. Les copains de vacances, on les voit en vacances.
Oui, mais la séparation est douloureuse. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire
La séparation est très douloureuse, donc vaut mieux la garder alors.
Oui.
Oui. Bon, alors c'est l'heure des bilans. On verra pourquoi d'abord c'est important de faire un bilan. D'ailleurs, peut-être vous pouvez faire le bilan avec nous. Dites-nous comment avez-vous passé ce mois de Ramadan. 01 53 48 3000. Venez témoigner. On attend justement votre partage d'expérience. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ce qui est intéressant le mois du Ramadan, c'est le rapport qu'on a avec le temps. Parce que quand on arrive au début du mois de Ramadan, vous avez devant vous 29 ou 30 jours et ça paraît très 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 long. Et puis après, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites, mais attends, c'était hier. Donc, et pourtant, tous les jours vous paraissent quand même longs quand vous êtes dedans. Donc c'est intéressant de voir que c'est peut-être le moment de l'année où on a un rapport au temps qui est complètement différent. D'ailleurs, on sait précisément plus ou moins quelle heure il est pendant le Ramadan.
Oui.
Alors que pendant le reste de l'année, on ne sait pas vraiment.
Exactement, il y a une blague comme ça, d'une comique, elle est trop marrante, qui dit c'est toute la maison est au rythme de la Freebox et de l'horloge et de l'Eden. Et on n'a je sais pas combien d'horloges dans la maison, mais tout le monde est...
On n'a jamais entendu autant de fois l'Eden que ce mois.
Exactement, exactement. Mais en fait, c'est parce que, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un mois béni? Un mois béni parce que justement, il y a des bénédictions dans ce mois et la bénédiction du temps en fait partie. C'est-à-dire cette élasticité du temps qui nous paraît parfois long. Et puis quand on est entré dans le temps, alors on peut être dans le temps, à travers le temps ou extérieur du temps. Alors moi, c'est mon idée, hein, si vous voulez, je vais la partager. C'est que quand on est à l'intérieur du temps et à travers aussi le temps, c'est-à-dire qu'on va le voir, on va le vivre. On va le vivre pleinement. Donc on est dans l'instant présent à vivre ces instants de jeûne dans lequel il va y avoir des émotions qui vont se passer, des pensées qui vont nous traverser. Et en même temps, il y a une projection sur la fin de la journée. Donc, c'est-à-dire qu'on est...
on n'est pas dans le moment présent.
Hein. Non, on n'est pas dans le moment présent. Ouais. Non. Et elle est là, la gymnastique. Et un des exercices qui se fait aussi dans le lâcher-prise, c'est de pouvoir se dire, je suis ici et maintenant, et en même temps, je peux être aussi ailleurs. Absolument. Donc, du coup, être à travers le temps et dans le temps, dans ces bénédictions, et c'est pour ça qu'il faut demander aussi à Dieu qu'il nous bénisse ce temps-là et qu'il nous mette la baraka dans ce temps, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir cette élasticité de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire durant cette journée et en même temps profiter pleinement de tous les bénéfices.
Bon.
Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai
dit. Non, si, j'ai bien compris votre rapport au temps, Karima. Azaïs, tu vois sourire, alors.
Pour rapport au temps.
Non, c'est trop conceptuel ce que vous dites. C'est à partir d'un certain moment, oui, vous avez l'esprit trop élastique.
Trop élastique. Bon, bah, je vais le ramener à son état initial, on va dire.
Pour prolonger ce que tu dis, le temps pour pouvoir en fait le maîtriser, il faut en prendre conscience. Mm-hmm. Et l'exemple qu'on a donné, le fait que, comme vous l'avez dit, Philippe. Qu'on est conscient de tout ce qui se passe pendant le Ramadan, on est attentif aux différentes horloges de la maison, à l'adhan et tout, c'est que la première partie de la maîtrise du temps, c'est la conscience du temps. Quand on a la conscience du temps, la première étape, la seconde étape, c'est aller à la vitesse du temps. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi pour se mettre en synchronicité avec le temps. Et donc, de ne pas aller trop vite. Et bien dire, oh, c'est quand. Oui, je sais que c'est à 21h30, donc j'ai pris conscience que c'est à 21h30, mais je me précipite alors que le temps, il va à sa vitesse propre. Donc, le travail pour aller en synchronicité avec le temps. Et ensuite, la troisième chose, c'est accepter ce que le temps va te proposer.
Enfin, beaucoup qui nous écoutent peuvent se dire que les mois de Ramadan passent beaucoup plus vite maintenant qu'ils ne passaient avant.
Oui. Ça, c'est vrai.
Parce que c'est le temps qui s'accélère, finalement ou...
Alors ça, on rentre dans une dimension un peu trop, peut-être spirituelle, pour parler, en fait, de la dilatation du temps ou du fait que le temps s'accélère, mais c'est lié aussi à l'univers. Parce que l'univers est en expansion, donc l'expansion de l'univers fait qu'aujourd'hui, le temps, lui aussi, en fait, s'accélère. Mais on ne va pas rentrer dans les domaines d'astrophysique parce que sinon on ne va plus s'en sortir.
Moi, tu m'as perdu là déjà.
Je t'ai perdu.
Moi, tu m'as perdu. Là.
Et moi, je ne veux pas te perdre. Je veux qu'on reste justement connecté parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc, on a dit trois choses, trois étapes. Prise de conscience du temps, être en synchronicité avec le temps et accepter ce que le temps va nous proposer.
Oui.
Et ça, c'est très important. Et je pense que là, on ne va pas rentrer dans d'autres étapes si on déjà on est dans ces trois premières parties, ces trois étapes qu'on arrive en fait à prendre à bras le corps, à partir de là, si on se projette, on arrive en fait à maîtriser ces trois étapes. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Bah demain, si c'est demain ou samedi. Bon, demain, on dit demain comme ça, de façon générale. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Bah demain, en fait, on n'aura plus la notion du temps. Puisque il y a plus l'horloge, en fait, on n'en tiendra plus compte.
Puisqu'on fait ce qu'on veut quand on veut.
Voilà, on fera ce qu'on veut.
On va prendre un café ou un thé, n'importe quelle heure, il n'y aura pas de...
Donc la prise de conscience du temps risque de disparaître.
Disparaître, oui.
Et donc, on n'aura plus la maîtrise, la synchronicité avec elle. Donc, c'est à nous de nous attacher à cette prise de conscience. C'est-à-dire que ce qui va se passer demain quand il va y avoir la grande porte ouverte, ben nous, on reste attachés en fait à la prise de conscience du temps. À quelle heure l'Aïd? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va se passer après l'Aïd? Parce que demain, on est quel jour?
Jour-moi.
Et donc, vendredi, il va y avoir la prière,
du vendredi.
Et donc là, la fête, après la prière du vendredi, qu'est-ce que je fais? Donc là encore, on reste connecté encore avec le temps. Donc demain, on est en fait encore dans une période où il y a encore des étapes.
Oui, une période charnière, voilà. En fait, pour pouvoir passer d'un état à un autre.
D'un état à un autre.
Que ce ne soit pas brutal.
Voilà. Si on était samedi, si c'est le rite, c'était samedi, en fait, là, on aurait dit, bon, on fait le rite, puis après, porte ouverte, on ne fait plus rien. Là, non. Demain, si c'est demain, c'est une rahma. Parce que Dieu nous met encore dans la maîtrise du temps, la conscience du temps, la maîtrise du temps et la synchronicité avec le temps.
Alors, on parle de bilan. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan?
Déjà, faire un bilan pour savoir où on en est, et parce qu'on est à cette fin du mois de Ramadan, du mois de jeûne, on a fait des efforts, on s'est travaillé, on s'est dépassé, on a patienté, on a persévéré, on a enduré, on a fait beaucoup de choses. Donc c'est important de savoir aussi, de se redécouvrir un petit peu à travers ce bilan de qui je suis et comment mon identité s'est enrichie, comment mon identité s'est actualisée, comment mon identité s'est développée. Et à travers cette identité de qui je suis, mes comportements, mes pensées, mes actions, si on s'est posé comme objectif, par exemple, alors moi j'aime bien poser les objectifs en termes d'adoration, par exemple si j'ai une difficulté avec le fait de donner, si j'ai une difficulté avec le fait même de jeûner, c'est-à-dire à chaque fois donner quelque chose, une intention particulière et un travail particulier. Et donc faire un bilan, c'est savoir où j'en suis, où je suis arrivée, avec quoi, de faire un peu le relevé de toutes ces belles provisions que j'ai amassées, de toutes ces belles choses, pour pouvoir dire, ok, qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Où est-ce que je veux encore aller? Qu'est-ce que je veux encore aller explorer? Qu'est-ce que je veux encore aller découvrir? D'accord.
Mais est-ce que c'est nécessaire de le faire, ce bilan, ou alors on pourrait arrêter le mois de Ramadan en disant, voilà, c'est fini, c'est fini?
En fait, la nécessité, pour prolonger ce que dit Karima, la grande force faite du bilan, c'est peut-être de poser sur papier ou sur tout ce qu'on veut, sur n'importe quel support, les grandes choses que j'ai faites. Parce que si on devait questionner n'importe quelle personne, te rappelles-tu d'une belle chose que tu as faite pendant ces 29 jours? Il va te dire, attends, je vais réfléchir. Il va mettre du temps. Alors que si il a mis en place un processus d'écriture tout au long de ce mois, et que au terme de ce mois, c'est-à-dire peut-être ce soir, aujourd'hui, tout au long de la journée, dire voilà, mon bilan, c'est oui, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai rencontré ça, j'ai fait de belles choses, j'ai dit ça, etc. Donc là, ça devient quelque chose qui va ancrer en lui et imprimer en lui les belles choses qu'il a faites. Et les choses qui ont nécessité peut-être une amélioration, eh bien, en fait, ne prendront plus la place, ne prendront pas place par rapport aux belles choses qu'il a faites. Et donc, le bilan, il a au moins cette force. Cette force d'imprimer toutes les belles choses qu'on a faites pendant ce mois. On a donné de l'argent, on a peut-être participé à donner un bien-être aux nécessiteux, etc., etc., dire de belles choses, et puis rencontrer, et puis voilà.
Oui, parce que le mois de Ramadan, le mois de jeûne, on l'a dit dans plusieurs émissions, mais on va le redire encore aujourd'hui, on le répétera encore, on s'inscrit dans un processus de transformation.
Voilà.
Donc on est différent, c'est un voyage. Dans le trans, il y a la notion de voyage et formation, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui se forme. Alors cette chose, pour pouvoir savoir et pour pouvoir continuer ou perpétuer et pérenniser tout ce qu'on a pu récolter. On a semé, mais il y a un mot il y a
Faites-moi, montrez-moi. On va faire comme si on était à pyramide.
Oui. Non, oh, arrête. Non, moi, je suis une kinesthésique. Je parle avec mes mains. Je suis corse. Je suis marocaine. Donc, je suis une vraie méditerranéenne. Je parle avec mes mains. Je parle avec plein de choses.
Qu'est-ce qu'on
donc,
a fait?
Le mot, ça y est, je l'ai retrouvé. Un mot qui vient du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit, quand il parle aux pèlerins dans Surat al-Baqara, donc il parle aux pèlerins et quand il leur dit, vous préparez en fait vos provisions. Et il dit, mais et la meilleure des provisions, wa khayru zadi, taqwa. Et la meilleure des provisions, c'est cette piété. Alors, taqwa, c'est traduit par piété, c'est pas vraiment.
Mais
moi, ça me plaît pas trop.
C'est la piété pieuse. Mais...
Exactement. Mais, et là, j'ai envie de reprendre en fait cette belle parabole, métaphore coranique pour dire. Ok, regarde les belles provisions qui sont tout autour de toi et tout ce que tu as amassé, tout ce que tu as récolté. Ce que tu as semé, regarde maintenant le fruit. Mmh. Et le fait de le voir, de le sentir et de se le dire, c'est quelque chose qui va venir, comme je disais tout à l'heure, enrichir qui je suis pour pouvoir vraiment devenir encore une meilleure version de moi-même. Si, et pour cela, j'ai besoin de faire un bilan.
Si c'est, et ce bilan, ça serait bien de le faire en binôme, avec son coach qu'on a rencontré, la personne avec qui on a voyagé pendant ce mois. Parce que ce bilan est difficile à faire seul. C'est bien en fait de le faire avec la personne qui, avec qui tu as vécu des moments particuliers, parce que chacun va pouvoir dire, va pouvoir annoncer, énoncer et dire les choses, les belles choses qui ont été vécues. Parce qu'on va les oublier. Nous-mêmes, c'est difficile de pouvoir tout noter, et alors que chacun va dire, tiens, tu te rappelles, on a fait ça, tu te rappelles, tu m'as dit ça, et voilà. Et que les belles choses, attention, on ne parle pas des choses difficiles, on parle que des belles choses.
Ou des choses qu'on n'a pas rester dans une dynamique positive.
Dans une dynamique positive. Parce que le mois de Ramadan, c'est que positif.
Oui.
Il n'y a pas de, ce qu'on n'a pas pu faire, c'était écrit.
Oui.
Ce qu'on a pu faire, c'était écrit aussi.
Oui.
Mais ce qui est écrit, le plus important, c'est la chose positive. Mm-hmm. Parce que c'est celle qui va être récompensée. Et aussi partir, on va le dire après, mais peut-être que c'est maintenant que je viens, c'est attention, la récompense, elle est assurée, elle est certaine, parce que c'est Dieu qui rétribue.
Oui.
Mais Dieu, il est amour rayonnant et sa générosité est infinie. Il ne peut pas te laisser sans te récompenser. Ce n'est pas possible. Ça n'a même pas de sens. Même.
Bien, c'est l'heure des bilans, puisque c'est peut-être le dernier jour du Ramadan, donc évidemment, il faut vraiment en
profiter.
C'est vrai
que depuis tout à l'heure, on parle comme si c'était demain.
Oui.
Alors c'est dommage, c'est vrai.
Moi, je vous
dis
demain ou samedi.
Ou samedi.
Moi, je reste, je doute encore jusqu'au bout. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 13h.
Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ? Composez le 01 53 48 3000. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.
Alors le mois du Ramadan, il y a une question que j'aimerais aborder avec vous, Karima Chedibaou et Aziz Kalsi, et il y a une question centrale, c'est la question du pardon. Bon, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour des gens? Alors parce que par définition, la première décade est, la deuxième est la décade du pardon. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour les gens de pardonner et qui sont là, qui se cramponnent à leur nif et à se dire jamais je pardonnerai. Pourquoi c'est tellement difficile à accorder le pardon?
Alors, ce qui serait intéressant, c'est peut-être repartir vers la définition du pardon en islam. Le pardon, c'est pas... comment tu pourrais le traduire, pardon? Parce que rafara, quand on parle de l'istighfar ou de l'ghufran, ça ne veut pas dire pardonner. Ça veut dire couvrir. Et Dieu, en fait, ici, ne pardonne pas. Il couvre tes fautes afin qu'ils ne soient plus visibles. Ce n'est pas la même chose.
C'est comme les secrets de famille. Parfois, des fois... On met une bonne couche, on couvre aussi les choses.
Voilà.
Hein.
Et Dieu
couvre, et c'est plus dans la dynamique d'un non-dit parce qu'on a peur, en fait, dans les familles, on a peur de la réaction, le secret est révélé, ou qu'est-ce que ça va créer, un tsunami ou pas, dans la famille. C'est pas dans ce sens-là.
Alors attends, justement. Vas-y. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Donc quand il couvre, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre, donc ça veut dire que cette faute n'est plus visible. Et il fait en sorte d'apaiser le cœur de la personne qui a subi. Mais pourquoi, alors, et là, on arrive à ce que vous dites, Philippe, pourquoi la personne ne pardonne pas? Elle reste toujours attachée. Pour la simple raison...
C'est même une question de vie ou de mort. Hein,
pour la simple raison que celui qui a fait la faute n'a pas compris le sens du pardon au sens islamique.
Ah oui, d'accord.
S'il le faisait dans l'intention de demander à Dieu de s'occuper de la personne qu'il a lésée, Dieu couvrirait ses fautes afin que cette faute ne soit visible que par personne d'autre que lui-même et Dieu, et apaiserait le cœur de la personne qui est en face. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette dynamique spirituelle n'est pas présente. Et donc, en fait, Dieu n'intervient pas. Et donc, lui, il attend, en fait, un dédommagement. Cela n'empêche qu'il existe quand même le dédommagement, puisque Ali ibn Abi Talib, il avait explicité les 6 conditions, justement, de ce sirfar, dont l'une, c'était de demander pardon et aussi de corriger, oui. C'est-à-dire de rétribuer ou
de réparer.
De réparer, voilà, je cherchais.
Le concept de réparation.
Parmi les 6, il y avait demander pardon et réparer. Et donc, voilà, donc en fait, il y a cette dynamique spirituelle. Quand elle n'est pas là, donc il reste que le lien homme-homme. Alors qu'il doit y avoir d'abord le lien Dieu, celui qui a lésé, et c'est celui qui est lésé qui sera en fait, dont Dieu va s'occuper. Mmh. C'est même pas toi qui va t'en occuper.
Mais dans la notion aussi de pardon, quand on veut pardonner, c'est qu'on a en fait, alors nous, moi je vais l'expliquer au niveau psychologique, c'est quelque chose que tu donnes. C'est une partie de toi en fait que tu as donné à l'autre, et que l'autre finalement n'a pas respecté cette partie de toi. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai donné mon amitié, j'ai donné de mon amour, j'ai donné ma confiance, j'ai donné, peu importe ce que j'ai donné, d'accord ? Et que l'autre, finalement, n'est pas à la hauteur de ce que j'ai donné. Du coup, pourquoi on n'arrive pas à pardonner ? Parce qu'on veut récupérer ce qu'on a donné et qu'on a laissé. Donc, c'est cette part de nous-mêmes qu'on a laissé chez l'autre. Et pour pouvoir pardonner, il faut déjà commencer à se pardonner soi-même. De se dire, ok, j'ai peut-être fait une erreur de jugement, j'ai mal apprécié cette situation, j'ai mal analysé. Et donc du coup, la personne, elle court et elle est là, elle est dans une espèce de rumination psychologique, de répéter les choses, de dire, voilà, mais tu ne te rends pas compte de ce que moi j'ai fait pour cette personne, de ce que j'ai donné. Et puis, non, je ne lui pardonnerai pas parce que pour moi, c'est un poignard, c'est comme si mon cœur était ouvert et qu'il saigne, patati patata, bref. Et qu'en fait, la personne, il faut qu'elle réalise la première étape pour pardonner, c'est de dire, je me pardonne à moi-même dans le sens où, ok, j'ai peut-être dépassé dans cette relation quelque chose ou peut-être que j'ai donné quelque chose que l'autre n'a pas su prendre, mais je peux le reprendre. Je peux reprendre ce que j'ai donné pour pouvoir ensuite pardonner et me libérer de cette souffrance parce que je donne le pouvoir à l'autre.
Il y a
vraiment
ce
cette notion-là, il y a ce lien.
Voilà. Et c'est ce qui fait que, quand je disais, il ne reste que le lien homme-homme,
alors
qu'il doit d'abord y avoir le lien de celui qui a lésé et Dieu. Et celui qui a été lésé, Dieu va s'en occuper. Et c'est extraordinaire de voir en fait ce processus. Quand il est coupé, la relation transcendante est coupée, il reste ce que tu viens de dire.
Oui.
Il faut que je récupère mon dû.
Oui.
J'ai donné quelque chose. Il a abusé de ma naïveté, abusé de ma gentillesse.
Mais parce que quelle est la partie de nous qui interagit à ce moment-là ? C'est notre partie la plus égocentrique et égotique. C'est j'ai donné quelque chose, je vais le récupérer. Pourquoi ? Quand je te donne ma confiance, tu dois être à la hauteur. Quand je te donne ma confiance, j'ai besoin que tu puisses, toi, répondre et que tu fasses ce que j'attends de toi. Mais attends, ce n'est pas la dictature. La personne, elle a le droit d'agir ou de pas. Mais ensuite, c'est quoi le contrat relationnel avec cette personne ? Parce que souvent, on le voit, hein, dans les familles, il y a des disputes, alors que des choses qui éclatent, alors que l'autre n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il dit, non, moi je ne lui pardonne pas, je vais donner ceci ou je vais donner cela, ou j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Et que l'autre, finalement, ne réagit pas ou n'interagit pas avec nous-mêmes de la manière dont on s'attend. Donc c'est pour ça qu'on dit, Charles Refrain, le mois du pardon, le mois de la réconciliation. Parce qu'on se réconcilie avec nous-mêmes et on se réconcilie avec les autres et décider de reprendre. J'ai une image là qui me vient. C'est comme si en fait la personne elle s'est un peu désintégrée, désagrégée, puis des parties d'elle un peu partout. Et donc c'est recréer l'unité en toi. Récupère toutes les parties que tu as laissées, que tu as données pour recréer l'unité en toi et pour être vraiment cet être qui va justement, en toute humilité, se présenter devant son Seigneur et justement lui demander d'être recouvert par cette miséricorde et par cet amour rayonnant.
Alors, pour continuer ce que tu dis, parce que les gens ils vont dire « Ah, mince, j'ai raté ça pendant tout ce mois. » Non, non, il reste encore.
C'est pas fini.
Et justement, voilà, « Khitam uhumis », parfois, c'est peut-être, ce n'est qu'à la fin qu'on le fait.
Exactement.
Donc, si on n'a pas pu le faire pendant tout ce mois, il reste, et c'est le moment de le faire. Parce que, justement, tout le processus, comme on dit, la mise en production, tout ce processus de fin, c'est là où, en fait, tout se lit. Et donc, ne négligez pas ces moments extraordinaires qui restent à savourer et à déguster encore.
Bon, et on commémore la fête, donc ça c'est important de, oui. de ah oui. célébrer les fêtes.
Dès ce soir, il faut décorer la maison, faire participer les enfants, c'est important, décorer la maison.
Mais parce qu'on est vraiment dans un, excuse, je t'ai coupé, mais on est vraiment dans un processus en fait de transmission aussi. Ouais. On transmet à nos enfants le symbolique de la fête, le qu'est-ce que ça veut dire. Ça y est, tu as fait des efforts, tu as pris sur toi, et maintenant regarde, c'est le moment de la récompense, c'est le moment de célébrer, le moment de dire voilà, il y a un passage qui est en train de se faire.
Et si on ne fait rien d'autre, c'est pas la fête, quoi. Il faut vraiment être en état de fête.
Ah oui,
être en état. Il faut avoir la posture de la fête, la joie de la fête intérieure de la fin au niveau spirituel, mais aussi au niveau tangible, c'est-à-dire
au niveau
matériel.
Tangible, que ça se voit, tu t'habilles, tu mets tes plus beaux habits.
C'est ça. Et ce soir, faites un super repas. Voilà. Mais moi, je le dis là. Là, je n'ai pas envie de dire pote.
Mais c'est le dernier.
Là, c'est un vrai repas, là.
C'est-à-dire qu'on range ses endives, ses pastèques et ses tomates.
Ses tomates. Et là, on fait un super repas. Et tout en famille, et on va le célébrer, mais vraiment avec une joie extraordinaire de fin.
C'est quoi un super repas chez Aziz Kelsey? Qu'est-ce que vous rajoutez? Vous rajoutez des graines? Il y a des concombres en plus?
Des racines.
Ouais. Ce soir, c'est la fête, on a rajouté des radis.
Comme j'ai la nigelle qui pousse dans le jardin, elle est maintenant très bien avancée, je vais prendre toutes les capsules et les graines, et puis je prends les racines aussi que je vais mastiquer longuement.
Faites partager, hein, c'est plein de vertus la nigelle.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, si c'est le dernier tour, il faut en profiter, quoi.
Il faut en profiter, exactement. Et puis le faire avec beaucoup de mesures pour celles et ceux qui ont mis en place, en fait, un régime particulier. Mais j'ai envie de faire marcher votre créativité, mais laissez place à votre créativité. Là, il y a de quoi faire.
Oui, parce qu'après, la shorba et la harira, c'est rangé pendant un an. Hein.
Oui. Donc,
c'est le moment de l'apprécier. Hein, parce qu'après, pendant un an, terminé.
C'est fini, oui, exactement. Non, c'est pas ton cas, Karima.
Non,
Karima.
C'est pas
mon
cas. Non, la harira, elle a une très grande place, même en dehors du mois.
C'est vrai, toute l'année.
Oui,
on a appris pendant ce mois de ramadan, par exemple, que votre mari y tenait. Donc,
oui, mon mari y tient.
Donc
oui,
ça, c'est important.
Mon mari et mon fils, les deux.
Vous avez raté les tomates lundi, Azaïs.
C'est vrai?
Ouais, on a mangé deux fois des tomates pendant le mois de ramadan.
Subhanallah, mince. Ça ne se reproduira plus.
Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
Mais on n'en a pas mangé assez, je trouve.
Ah, c'est vrai.
Ah ouais, non, il faut en manger beaucoup plus. Ouais. On mange beaucoup trop, de toute façon. C'est clair.
En tout cas, la dernière fois, j'ai vu que la table était...
une très, très belle table.
Une table bien servie.
Oui.
Et ce soir, c'est indonésien.
Ah.
Voilà, ce soir, on fait un tour indonésien. Hier soir, on a testé comorien.
Oui.
Et je peux vous dire que c'était magnifique.
Mm-hmm.
C'était très, très, très intéressant. On s'était très éloigné de tout ce qu'on connaît, hein,
oui.
Le tour comorien. Et ce soir, pour terminer, on termine indonésien.
Hein.
Voilà, si vous voulez, il y a de la place. Hein.
Bah, écoutez, on va voir. Hein.
Hein, parce que,
je peux ramener les enfants?
Alors, ça va se compliquer, là, parce que... combien en avez-vous? on fera une table pour les enfants.
J'ai trois filles, mais qui ne mangent pas beaucoup.
Ah, elles aussi, donc c'est bien. Mais quand elles vont voir la nourriture indonésienne, Azaïs, vous allez voir, peut-être qu'elles vont changer d'avis.
C'est ça, exactement.
Mais surtout si vous allez être dans la célébration, dans la fête, le chant, le rire, la joie.
N'oubliez pas de célébrer, c'est important.
Ouais.
Bon, bah écoutez, c'était bien de vous avoir pendant ce mois de ramadan, depuis plusieurs années, en tout cas. Hein, c'était un bon moment.
C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer à chaque fois et d'être acteur au sein de la société, d'être dans la transmission du savoir avec le peu que l'on connaît.
Ouais, et puis merci à vous d'avoir donné de votre temps, parce que c'est vrai que le mois de ramadan, c'est un mois où on court tout le temps après le temps, et c'est vrai que de venir pour faire des émissions alors que ça circule mal, que c'est compliqué, hein, c'est vrai que c'est donner de son temps.
Mais ça fait plaisir, parce que de toute façon, ce temps aussi est comptabilisé, et auprès de Dieu, il a une grande valeur, donc c'est que du bénéfice.
On vous donne rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 18h30, je pense, puisque le CFCM, le Conseil français du culte musulman, réuni à la mosquée de Paris, annoncera ce soir la fin ou pas du mois de ramadan. Elle annoncera la fin, mais on saura ce soir si c'est demain ou après-demain, et vous le saurez en exclusivité en direct.
Notre reporter de terrain.
Oui, c'est Vanessa.
Ah,
et
ouais.
Vanessa qui, elle, arrive à avoir l'information avant tout le monde.
Comment elle fait?
Ah, mais je ne sais pas. Mais ça, c'est...
Non,
alors,
Vanessa,
c'est le secret du reporter.
C'est son secret, vous voyez.
Les yeux supersoniques.
Et voilà. Mais on l'aura, donc soyez fidèles au rendez-vous. Mais continuez à nous écouter, parce que les gens, en fait, ils veulent savoir si c'est...
C'est ça.
Mais non, il faut aller jusqu'au bout.
Aller jusqu'au bout, et vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie.
Merci Karima.
Merci.
Bien aligné.
Toujours aligné dans les intelligents.
On en profite pour écouter votre dernière chronique, hein, puisque oui. C'est le dernier jour aussi. Merci Azaïs.
Merci Philippe.
Et à très vite.
À très vite.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.